Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus redescendit avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Saint Bernard en reste stupéfait. Qui et à qui s'exclame-t-il? Dieu à des hommes. Honte à toi, cendre orgueilleuse. Dieu s'abaisse et toi tu t'élèves. Dieu se soumet à des hommes et toi tu te mets au-dessus de ton Créateur. Cet homme que Saint Bernard interpelle, c'est bien sûr nous-mêmes. Mais c'est surtout l'homme moderne qui a voulu rompre avec l'Église au temps du protestantisme, puis rompre avec Dieu à la Révolution en proclamant les droits de l'homme et en exaltant la liberté humaine. Les conséquences de ce non serviam, nous les constatons dans la décadence de la société qui semble en être arrivée à la folie, puisqu'elle nie les principes élémentaires naturels. Nous subissons, hélas, les conséquences de cette désobéissance. Ces conséquences ont gagné toutes les parties de la société, jusqu'à la famille. Que faire? Les papes de la première moitié du XXe siècle ont montré la solution. C'est en vain, dit Pie XII en 1951, qu'on s'efforce d'enrayer le déclin de la civilisation si on ne ramène pas à la loi de l'Évangile la famille, principe et fondement de la société. Nous verrons, si vous voulez bien, tout d'abord pourquoi la famille chrétienne est le point de départ de la restauration sociale et deuxièmement comment elle peut l'être, et nous en tirerons quelques leçons. Pourquoi la famille chrétienne est-elle le point de départ de la restauration sociale? Parce que, enseigne Pie XII en 1951 au père de famille, la famille est la cellule fondamentale de la société humaine. À ce titre, c'est sa vie, sa santé, sa vigueur, son activité qui, dans l'ordre, assure la vie, la santé, la vigueur, l'activité de la société tout entière. La famille n'est pas pour la société, mais c'est la société qui est pour la famille. Elle est l'élément constitutif de la communauté de l'État. Et puis, il cite Pie XI, « La cité est ce que la font les familles et les hommes dont elle est formée, comme le corps est formé des membres. » On voit tout de suite les conséquences. On peut comparer le mal dont souffre la société actuelle à un cancer généralisé. Les principes dont elle se réclame produisent un développement anarchique de cellules qui finissent par donner la mort à tous les organes vitaux du corps. Pour guérir, il faut non seulement que des cellules saines se développent, mais que ces cellules saines aient une vie supérieurement riche, au point de transformer les cellules malades. Ce ne sont pas des familles ordinaires, comme dans les années 50, dont la société a besoin pour se relever, mais de saintes familles. C'est ce qu'enseignait déjà le pape Léon XIII en 1892. Il importe souverainement, dit-il, que la société domestique non seulement soit saintement constituée par le sacrement de mariage, mais encore qu'elle soit régie par de saintes lois et que l'esprit de la religion et les principes de la vie chrétienne y soient développés avec soin et constance. Comment, à notre époque, un jeune homme, une jeune fille, s'engageant par le mariage à former une famille chrétienne, feront-ils pour parvenir à cet idéal de sainteté qui sera capable de produire des effets bénéfiques sur l'entourage en décomposition? Eh bien, les papes nous indiquent encore la direction. C'est en prenant comme modèle la Sainte Famille. Le pape Léon XIII, dans le bref Neminem sur la Sainte Famille, dit que Dieu a établi cette Sainte Famille pour que les hommes puissent contempler l'exemplaire le plus parfait de la société domestique, ainsi que de toute vertu et sainteté, elles trouvent en elles une cause et une invitation pour la pratique de toute vertu. C'est un fait, une constatation, l'homme a besoin de modèles. Les jeunes familles de convertis nous font souvent remarquer qu'elles ne savent pas comment faire pour éduquer leurs enfants, car elles n'ont rien reçu à ce sujet, ni principe, ni modèle. De plus, elles ont baigné dans notre monde, pénétré des principes issus de la Révolution, qu'elles ont assimilés sans s'en rendre compte. Il leur faut donc les éliminer pour en acquérir de bons. En nous donnant la Sainte Famille, Dieu a voulu nous montrer ce que doit être la famille, quels sont les principes qui la constituent. Que voyons-nous dans cette famille ? Que chacun y est à sa place et remplit à la perfection le rôle qui lui est assigné. L'ordre parfait, source de paix, y règne. Et cet ordre est produit par l'obéissance parfaite de chacun des membres envers Dieu. Tout d'abord, Joseph est le chef de la Sainte Famille. Il est le représentant de Dieu avec les grâces d'État nécessaires pour veiller sur elle et pourvoir à ses besoins. Il ne cherche pas à diriger sa famille selon ses vues, mais agira toujours en pleine conformité au vouloir divin, ce qui suppose une vie d'union à Dieu très grande et un total renoncement. Prenons un exemple. Quand l'édit de César Auguste paraît, ordonnant le recensement, il y discerne l'action de la providence divine. Il sait que son épouse va enfanter, et s'il avait raisonné avec la sagesse du monde, il serait resté à Nazareth et aurait désobéi à l'édit, en avançant une raison très valable, l'accomplissement des jours de Marie. Mais il savait aussi, par les saintes Écritures, que le Messie naîtrait à Bethléem. Il renonce donc à ses vues, à ce qui a priori ressemble à de la prudence, et s'abandonne aux indications de la Providence qui donne suffisamment de lumière. Et il agira ainsi pendant toute sa vie. Cette soumission totale de Saint Joseph à Dieu en fait le vrai collaborateur de l'œuvre de Dieu. Par son obéissance, il a permis que Marie devienne mère de Jésus, que Jésus accomplisse l'œuvre de la rédemption. Il est le véritable chef qui conduit à leur fin ceux qui sont soumis à son autorité. De même que Joseph a été un vrai chef de famille en permettant par son obéissance totale à Dieu l'incarnation et la rédemption, de même, vous, chef de famille, vous devez mettre Dieu au centre de votre foyer afin de protéger ses membres des influences mauvaises du monde. Vous devez établir dans votre foyer les conditions de vie qui permettront à votre épouse de faire fleurir les vertus de l'épouse et de la mère de famille chrétienne et faire de votre maison un autre Nazareth où règne une vie chrétienne profonde, où les parents prient, méditent quotidiennement les enseignements de Jésus, cherchent à mieux connaître Dieu en s'instruisant de leur religion et où les enfants, comme de jeunes plants d'olivier autour de la table familiale, croissent en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il est clair, comme le dit le pape Pie XII au père de famille en 1951, que votre premier devoir est de pourvoir à la santé corporelle, intellectuelle, morale et religieuse de la famille. Mais accomplir ce premier devoir en faisant de votre famille une oasis de vie chrétienne au milieu de notre société en décomposition, ne suffit pas, car un deuxième devoir découle du premier. C'est celui, dit Pie XII, de défendre les droits sacrés de la famille chrétienne contre toutes les violences extérieures. Le pape souligne particulièrement le devoir de défendre l'autorité des parents, leur liberté d'élever chrétiennement leurs enfants et donc d'avoir des écoles catholiques, de défendre la sanctification du dimanche, de défendre la décence et la dignité dans la cité. Question bien d'actualité aujourd'hui, et pas facile à résoudre. Que peut-on faire, me direz-vous ? Pie XII encourage à ne pas capituler devant la supériorité des forces politiques, mais à patienter. Et il préconise aux pères de famille de s'unir. Oui, s'unir, par exemple, pour former un cercle d'études, s'unir pour faire vivre nos écoles, s'unir pour soutenir les rares élus qui prennent des décisions politiques courageuses. Il y a toujours le moyen de faire quelques actions qui peuvent porter des fruits. Marie est la mère de famille. Par son exemple, son amour, sa modestie, sa soumission d'esprit et sa foi parfaite, elle donne au Verbe incarné les conditions idéales de développement de son humanité. Marie accomplit tous ses devoirs avec promptitude, dans une parfaite docilité à l'Esprit Saint dont elle est remplie. Elle se met à l'école de Jésus, dont elle sait qu'il est Dieu. Tous les faits et gestes de Jésus, ses paroles, elle les recueille, elle les médite dans son cœur. Marie est une épouse bien à sa place, sachant mettre au premier plan le chef de famille. Prenons l'exemple de l'Évangile d'aujourd'hui. En retrouvant Jésus au temple, Marie lui dit « Mon fils, que nous avez-vous fait ? Votre père et moi, pleins de chagrin, nous vous cherchions. » On peut déjà remarquer l'union de Saint Joseph et de Marie. Pendant les 3 jours de recherche, ils sont restés bien ensemble. Donc Marie a toujours suivi les avis et les directives de Saint Joseph pour la recherche de Jésus. Elle n'est pas arrivée avant l'heure, avant Saint Joseph, au temple. Elle met Saint Joseph au premier plan et elle le nomme Père de Jésus. Et ce n'est pas une convenance, car Marie sait que Joseph est vraiment le chef de la famille, qui par son autorité a consacré sa virginité à elle, à la libre initiative de Dieu, et lui a permis d'être mère de Jésus, le Fils du Très-Haut. Alors, épouse chrétienne, imitez Marie. Soyez des modèles d'humilité, de modestie, de discrétion. Soyez des âmes de vie intérieure pour être capables de le transmettre à vos enfants. Soyez fiers de vos époux en les mettant toujours au premier plan. C'est dans la mesure de votre obéissance surnaturelle au chef de famille que vous réaliserez pleinement la mission que Dieu vous a confiée d'être le soleil de votre foyer et que vous trouverez votre véritable épanouissement de femme. Époux, épouse, où trouverez-vous la force de pratiquer cette obéissance à Dieu dans l'accomplissement quotidien pendant toute votre vie de vos devoirs d'État respectifs ? Dans la contemplation et l'imitation de Jésus, qui a été un divin exemple d'obéissance. Quel beau spectacle ce devait être que l'obéissance de Jésus à Nazareth. Prompte, joyeuse, entière, et ceci depuis son incarnation dans le sein de Marie jusqu'à sa mort sur la croix, et envers toutes sortes d'hommes, des saints, comme la Sainte Vierge et Saint Joseph, mais aussi des pécheurs, comme les bourreaux pendant la Passion. En obéissant à des hommes à cause de Dieu, Jésus a anobli l'obéissance. Il a relevé l'autorité. Et par son obéissance, Jésus a mérité pour vous la grâce d'obéir à Dieu, c'est-à-dire de réaliser la mission qu'il vous a confiée, chacun à votre place, de former des chrétiens accomplis pour le bien de la société civile et des saints pour le ciel. C'est une entreprise bien difficile, me direz-vous, à réaliser. Mais Pie XII se fait l'écho de sœur Lucie de Fatima en déclarant que la récitation du rosaire en famille est un moyen des plus efficaces pour réaliser une entreprise si difficile. Alors demandons à la Vierge Marie, en ce 100e anniversaire de ses apparitions à Fatima, les grâces nécessaires pour réaliser cette entreprise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.